Chapitre 3. Charles Freck songeait lui aussi à visiter New Path, tellement ça lui avait fait mal de voir flipper Jerry Fabin. Assis en compagnie de Jim Barris à la cafétéria Fiddler's Three à Santa Ana, il tripotait d'un air morose son beignet enrobé de sucre. « Sacrée décision à prendre, » dit-il. « Là-bas, c'est le manque intégral. Il reste avec toi jour et nuit pour t'empêcher de te buter ou de te bouffer le bras. » Mais il te file absolument rien. Pas comme un docteur qui pourrait te prescrire quelques trucs. Du Valium, par exemple. Barris rit doucement, tout en examinant son friand. C'était une sorte de pâté, mélange d'un hachis d'ersatz de bœuf et de pseudo-fromage fondant sur pain biologique spécial. « Qu'est-ce que c'est que ce pain ? » demanda-t-il. « Regarde sur le menu, » dit Charles Freck. « C'est expliqué. »« Si tu vas là-bas, » enchaîna Barris, tu connaîtras des symptômes dus aux sécrétions corporelles, surtout à celles localisées dans le cerveau. Je pense aux dérivés du catéchol, tels que la noradrénaline et la sérotonine. Ça fonctionne de la manière suivante, vois-tu. La substance M, en fait toutes les drogues addictives, mais celle-là en premier, agit sur les dérivés de telle manière que les complications interviennent au niveau subcellulaire. Il se produit une contre-adaptation biologique et en un sens, elle est irréversible. Il mordit un bon coup dans le côté droit de son friand et se mit à mastiquer une énorme bouchée. Avant, on croyait que ça n'arrivait qu'avec les alcaloïdes, du type héroïne. Je n'ai jamais tâté de l'héro. C'est le flip. Une mignonne serveuse en uniforme jaune, une blonde au sein hardi, approcha de leur table.
« Bonjour, » dit-elle. « Vous avez tout ce qu'il vous faut ?»
Charles Freck releva la tête d'un air affolé. « Vous vous appelez Patty ?» demanda Barris, tout en faisant signe à Freck qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter.
« Non. »
Elle désigna le badge piqué sur son sein droit.
« Moi, c'est Beth. »
« Je me demande si le gauche a un nom, » songea Charles Freck. « La serveuse de la dernière fois s'appelait Patty, » reprit Barris, qui reluquait la fille sans se gêner. « Comme dans Patty en croûte. »
« Ça ne devait pas être la même. Elle n'a pas de maladie de peau. » répliqua la fille sans se démonter.
« Tout va très bien, merci, » dit Barris. Au-dessus de la tête de son copain, Charles Freck voyait une bulle, et dans la bulle, Beth se déshabillait en implorant qu'on la baise. « Non, tout ne va pas bien. Pas pour moi, » fit Charles Freck. « J'ai un tas de problèmes que personne d'autre n'a. »« Il y a plus de gens que tu ne penses dans ton cas, » répliqua sombrement Barris. Leur nombre augmente chaque jour. Le monde est malade. Et ça ne fait qu'empirer. À l'intérieur de la bulle, ça empirait également.
Aimeriez-vous commander un dessert ? Demanda Beth avec un sourire.
Qu'est-ce que vous proposez ? Dit Freck, méfiant.
Nous avons de la tarte aux fraises ou aux pêches. Elles sont faites maison, avec des fruits frais.
Beth leur adressa un nouveau sourire. Non. « On ne prend pas de dessert, » dit Charles Freck. La serveuse s'éloigna. « C'est pour les grands-mères, toutes ces tartes, » ajouta Freck, après son départ. « L'idée de te présenter volontairement pour la cure a l'air de te coller des sueurs froides, » dit Barris. « Cette peur montre que tu souffres de symptômes négatifs délibérés. C'est la drogue qui parle, pour t'empêcher d'aller à New Path et de décrocher. Figure-toi que tous les symptômes sont délibérés, qu'ils soient positifs ou négatifs. » Bah merde alors, laissa échapper Charles Freck. Ceux qui sont négatifs manifestent les envies, les désirs créés par le corps tout entier pour forcer son possesseur, dans ce cas il s'agit de toi, à rechercher frénétiquement. Quand tu arrives à New Path, l'interrompit Charles Freck, il commence par te couper la bite, rien que pour t'apprendre. Et puis il progresse dans toutes les directions à partir de là. Après, c'est au tour de ta rate, enchaîna Barris. Il te coupe. À quoi ça sert la rate?
Ça t'aide à digérer.
Comment ça?
En ôtant la cellulose de ta bouffe.
Mais alors après ça, plus que de la bouffe sans cellulose.
Pas de feuilles ni de luzerne.
Et combien de temps on peut vivre comme ça?
Ça dépend comment tu prends les choses, fit Barris.
Combien de rats t'as le mec moyen? Charles Freck savait qu'en général, on possède deux reins. Question d'âge et de poids.
Comment ça ?
Charles Freck commençait à se méfier.
À mesure que le type vieillit, il lui pousse d'autres rates. Quand il a 80 ans,
tu te fous de moi. Baris se mit à rire. Il avait toujours eu un rire étrange, songea Charles Freck. Irréel, comme un truc qui se casse.
Pourquoi cette décision, lui demanda Baris, d'aller te porter pâle à un centre de désintox ?
Jerry Fabine.
Baris eut un geste désinvolte.
Jerry, c'était un cas à part. Un coup, j'ai vu Jerry Fabine rentrer dans tous les meubles et se ramasser. Il se chiait dessus, savait pas où il était. Il voulait que j'aille voir quel poison il avait bien pu se procurer.
Du sulfate de thallium, probable. On s'en sert dans les insecticides et pour tuer les rats. C'était une arnaque, quelqu'un qui lui rendait la monnaie. Je pourrais te nommer 10 toxines ou poisons capables de...
Il y a une autre raison, fit Charles Freck. Ma provision s'épuise encore et je tiens pas le coup. Toujours en manque et sans savoir si je vais toucher un nouveau stock, oui ou merde.
Bah, on peut pas être sûr qu'on reverra le jour se lever.
Enfin merde, j'en suis au point où c'est plus qu'une question de jour. Et aussi, je crois que je suis en train de me faire avoir. Pas possible que je consomme à ce rythme. Quelqu'un doit piller mon stock.
Combien de cachets tu descends dans la journée ?
Très dur à dire, pas tant que ça.
Il y a l'accoutumance, tu sais.
Oui, d'accord, mais pas comme ça. J'encaisse pas de me retrouver à sec, et ce qui s'ensuit. D'un autre côté...
Il réfléchit.
Je crois que j'ai une nouvelle source. Cette fille, Donna. Donna quelque chose.
Oh, celle de Bob ?
Oui, sa nana. Charles Freck hocha la tête.
Non, il se l'est jamais tapé. Il essaie.
Elle est réglo ?
À quel point de vue ? Au pieu ou...
Baris porta la main à sa bouche et fit mine d'avaler quelque chose.
C'est quoi comme spécialité ? Puis il comprit.
Ah ouais, sur ce plan, ouais.
Assez réglo, un peu débile. La nana, quoi. Surtout quand c'est une brune. Elle a la cervelle entre les jambes, comme la plupart. Probable qu'elle y planque aussi sa provision.
Il gloussa.
Tout son stock de dealer.
Charles Freck se pencha vers lui. Arctor n'a jamais sauté Donna ? Il parle comme si.
Bob Arctor est comme ça. Dans des tas de domaines, il parle comme si. Attention, pas pareil. Pas pareil du tout.
Comment ça se fait qu'il l'ait jamais tringlé ? Il peut pas triquer ?
Baris prit l'air du penseur profond, sans cesser de tripoter son friand qu'il avait fini par réduire en petits morceaux.
Donna a des problèmes. Peut-être qu'elle est à la dope. Regarde comme elle a horreur qu'on la touche. Les junkies ne s'intéressent plus au sexe, tu comprends ? Du fait de la vasoconstriction qui provoque un gonflement des organes. Et j'ai remarqué que rien ne peut exciter Donna, mais alors à un point que c'en est pas naturel. Pas simplement avec Arctor, mais avec...
Il marqua une pause, la mine renfrognée.
Avec d'autres mâles aussi.
Merde, tu veux simplement dire qu'elle se laisse pas aller ?
Elle le ferait si on la prenait bien. Par exemple...
Il lança un regard de conspirateur.
Je peux te montrer comment la baiser pour 98 cents.
Je ne veux pas la baiser. Je veux juste lui acheter de la marchandise.
Charles Freck se sentait mal à l'aise.
Quelque chose chez Baris lui retournait toujours l'estomac. Pourquoi 98 cents ? Elle prendrait pas de fric. Elle fait pas de passe. De toute façon, c'est la nana de Bob.
Mais le fric ne lui serait pas versé directement ?
Ton docte et précis de Baris, penché vers Freck, avec ses naseaux poilus tout frémissants du plaisir de se savoir si malin.
Mieux.
Ses lunettes teintées de vert s'étaient embuées.
Donna prend de la coke. N'importe quel type qui lui en refile un gramme, elle lui ouvrira ses jambes.
Surtout si l'on a pris la précaution d'y rajouter, selon un dosage rigoureusement scientifique, certains produits fort rares. C'est un problème sur lequel j'ai mené des recherches minutieuses autant qu'originales. Je voudrais bien ne pas t'entendre parler d'elle comme ça. De toute façon, le gramme de coke se vend à plus de 100 dollars. Qui possède assez de fric ?
Baris en éternua presque. Sans compter mon travail, en prenant simplement les ingrédients de base nécessaires, je suis capable de produire un gramme de cocaïne pure pour moins d'un dollar.
Baratin.
Je te le prouve.
Et ces ingrédients, ils viennent d'où ?
Du 7-Eleven. Baris se releva, légèrement chancelant. Dans son excitation,
il fit tomber des bouts de sandwich. « Demande l'addition, » fit-il, « et je vais te montrer. J'ai installé un labo provisoire à la baraque en attendant mieux. Tu vas pouvoir me regarder tirer un gramme de cocaïne de produits de consommation courante qui sont en vente libre au 7-Eleven pour une somme totale qui n'atteint pas $1. » Il filait déjà entre les tables. « Amène-toi, » dit-il. Le ton était pressant. « Sûr. » Charles Freck ramassa la note et suivit. « Dingue, le mec, » songea-t-il. « Ou peut-être pas. Avec toutes ses expériences de chimie et toutes ses lectures en bibliothèque, il pourrait y avoir quelque chose là-dessous. Quand on pense aux bénéfices, qu'est-ce qu'on pourrait empocher ?» Il pressa le pas pour rejoindre Baris, lequel tirait déjà d'une poche de sa combinaison de pilote achetée au surplus les clés de son Hermann Gia, tout en passant devant le caissier. Ils se garèrent au parking du 7-Eleven, puis gagnèrent l'entrée du magasin. Un gros flic ahuri se tenait comme d'habitude près de l'éventaire et faisait semblant de feuilleter une revue de cul. Charles Freck savait bien qu'en réalité, il lorgnait les nouveaux arrivants afin de repérer ceux qui risquaient de préparer un mauvais coup. « Qu'est-ce qu'on doit prendre ici ?» demanda-t-il à Baris qui déambulait, la mine désinvolte, parmi les allées du rayon alimentation.
« Une bombe de solarcaïne. »
« Un truc contre les coups de soleil ?» Charles Freck n'en croyait pas ses oreilles. Mais d'un autre côté, comment savoir ? Tout était possible. Il suivit Baris jusqu'à la caisse. Et cette fois, Baris paya. Muni de leur aérosol, ils sortirent du magasin, passèrent devant le flic et regagnèrent leur voiture. Baris quitta rapidement le parking, puis fila à vive allure sans tenir compte des panneaux de limitation de vitesse. Il ne ralentit pas jusqu'à la maison de Bob Arctor. De vieux journaux que personne n'avait ouverts traînaient parmi les hautes herbes, devant la porte. Baris mit pied à terre et prit sur le siège arrière quelques objets d'où pendaient divers fils. Freck reconnut un voltmètre, ainsi que d'autres appareils électriques de mesure et une lampe à souder. « C'est pour faire quoi, ça ? » demanda-t-il. « J'ai un boulot long et pénible devant moi, » fit Baris, les bras chargés de tout son équipement et de la bombe de solarcaïne. Ils remontèrent l'allée jusqu'à la porte. Baris tendit la clé à Charles Freck. « Et je serai sans doute pas payé, comme d'habitude. » Dès qu'ils furent entrés, deux chats et un chien vinrent leur tourner autour des talons, avec de petits cris pleins d'espoir. Les deux hommes les écartèrent prudemment de leur chemin. Au fil des semaines, Baris s'était constitué, à l'arrière du coin cuisine, une sorte de labo dépotoir, bouteilles et camelotes en tout genre, objets sans valeur apparente qu'il avait piqués à droite et à gauche. Charles Freck savait, pour avoir dû subir l'exposé de la théorie, que Baris croyait moins au stockage proprement dit qu'à son utilisation ingénieuse. Il faut savoir utiliser le premier truc qui vous tombe sous la main. Tel était son credo. Une punaise, un trombone, la pièce d'un assemblage dont les autres parties ont été brisées ou égarées. Charles Freck se dit qu'un rat devait avoir ouvert boutique ici et se livrait à des expériences sur le type de matériaux prisés de son espèce. Pour Baris, la première opération consista à détacher un sac en plastique du rouleau près de l'évier et à y plonger la bombe de solarcaïne pour faire gicler, par vaporisation répétée, tout le contenu, au moins jusqu'à épuisement du gaz. « C'est pas réel, » fit Charles Freck. « C'est super pas réel. »« Je vais te dire ce qu'ils ont fait, » annonça joyeusement Baris, sans interrompre sa tâche. « Ils ont délibérément mélangé huile et cocaïne de manière qu'on ne puisse pas extraire la coke. Mais ma connaissance de la chimie est telle que je sais précisément comment procéder. » Il s'était mis à agiter vigoureusement une salière au-dessus de la sauce visqueuse qui emplissait le fond du sac. Ensuite, il vida le tout dans un bocal de verre. « Je vais le congeler, » expliqua-t-il avec un sourire. « Ça va faire monter les cristaux de cocaïne à la surface, vu qu'ils sont plus légers que l'air. Que l'huile, je veux dire. Pour l'opération finale, naturellement, je garde le secret, mais sache que ça implique un procédé de filtrage extrêmement complexe. » Il ouvrit le congélateur au-dessus du frigo et plaça le bocal à l'intérieur. « Tu l'y laisses combien de temps ?» demanda Charles Freck. « Une demi-heure. » Baris sortit une de ses cigarettes roulées à la main, l'alluma, puis se dirigea vers son tas d'instruments de mesure, qu'il considéra un moment en se frottant la barbe. «
Bon, » dit Charles Freck, « mais écoute, même si tu tires un gramme pur de ce truc, je vois pas comment je peux m'en servir avec Donna pour, tu sais, pour la sauter en échange. C'est comme si je l'achetais. C'est à ça que ça revient. »
« Un échange ?»
Barris reprit le terme utilisé par Freck. « Tu lui fais un cadeau, elle t'en fait un autre. Le cadeau le plus précieux que possède une femme.
Elle saurait qu'on l'achète. »
Il connaissait suffisamment Donna pour prévoir sa réaction. Elle verrait tout de suite clair dans la combine.
« La cocaïne est un aphrodisiaque, »
murmura Barris, à moitié pour lui-même. Il était en train de disposer ses appareils à côté du bien le plus coûteux de Bob Arctor, son céphalochromoscope.
Qu'elle ornifle une bonne dose, et elle sera ravie de déboucher son goulot pour toi.
« Merde !» protesta Charles Freck. « C'est de la nana de Bob Arctor que tu parles. Bob est mon ami, et c'est le type qui habite avec Luckman et toi. »
Barris releva un moment sa tête hirsute et dévisagea Charles Freck. « Il y a pas mal de choses que tu ignores au sujet de Bob Arctor. Des choses que nous ignorons tous. Tu le vois de façon naïve et simpliste. Tu crois ce qu'il veut bien te laisser croire.
C'est un type régulier.
Mais bien sûr. »
Barris hocha la tête en souriant.
« Aucun doute là-dessus.
On n'en trouve pas de meilleur. Seulement, j'en suis arrivé, comme ceux d'entre nous qui ont observé Arctor de près et avec application, à déceler chez lui certaines contradictions, à la fois sur le plan de la personnalité et sur celui du comportement. Dans toute son approche de l'existence, ou, si tu veux, du point de vue de son style inné.
Tu penses à quelque chose de précis ?
Les yeux de Barris se mirent à danser derrière ses lunettes vertes.
« Tu peux faire danser tes mirettes. Ça m'apprend rien, » dit Charles Freck. « Qu'est-ce qu'il a, le céphascope, pour que t'ailles le bricoler ?»
Et il se rapprocha afin de mieux se rendre compte. Barris fit basculer le châssis central et répliqua « Dis-moi ce que tu remarques dans le câblage là-dessous. »
« Je vois des fils coupés. Comme qui dirait, des courts-circuits volontairement provoqués. Qui a fait ça ?»
Nouveau balai oculaire et jubilant de Barris, de l'air de celui qui sait des choses.
« Arrête cette merde ! C'est pas ça qui marche avec moi, » dit Charles Freck. « Qui a bousillé ce céphascope ? Quand ? Tu viens de t'en apercevoir ? Arctor n'en a pas parlé la dernière fois que je l'ai vu, et ça ne remonte pas plus loin qu'avant-hier. »
« Peut-être qu'il n'était pas encore prêt à en parler ?»«
Oui, eh bien pour moi, tes devinettes, c'est des trucs de mecs flippés. Je crois que je vais aller me présenter à un des foyers de New Path. Je vais avoir la guenon et me faire soigner, me démolir à leur jeu. » Je serai avec ces mecs jour et nuit. J'aurais pas à subir des tarés dans ton genre, qui se donnent des grands airs mystérieux auxquels je comprends que dalle. Je vois bien que ce céphascope a été trafiqué, mais tu m'apprends rien. Tu veux insinuer que Bob Arctor a fait ça lui-même, à son propre appareil qui lui a coûté un maxi, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'assure que je voudrais être à New Path, où je serais pas forcé jour après jour de subir cette merde. Et si c'est pas avec toi, c'est avec un autre freak aussi flippé que toi.
Il bouillait de colère. Je n'ai pas bousillé cet appareil. Barris tripota ses favoris d'un air méditatif. Et je doute fort qu'Ernie Luckman y soit pour quelque chose.
Je doute fort qu'Ernie Luckman ait bousillé quoi que ce soit au cours de son existence, sauf le jour où il avait flippé à cause d'une dose de mauvais acide et où il a balancé la table basse du living, ainsi que tout ce qui traînait autour par la fenêtre. Il a tout envoyé sur le parking. C'était dans l'appartement où il vivait avec cette nana, Joan. Rien à voir. Normalement, Ernie a la tête sur les épaules, plus que nous tous réunis. Non, Ernie n'irait pas saboter le céphascope d'un autre mec. Et Bob Arctor, c'est bien le sien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé au milieu de la nuit sans s'en rendre compte et il s'est baisé lui-même de cette façon? Non, le type qui a fait ça voulait le foutre dans la merde, voilà tout.
Et c'est probablement toi, fils de pute, ajouta-t-il pour lui-même. Tu as les connaissances techniques et l'esprit assez tordu.
Le type qui a fait ça, reprit-il. Devrait être dans une clinique neurologique fédérale pour aphasique, ou bien entre quatre planches. De préférence entre quatre planches, si tu veux mon avis. Bob prenait toujours son pied avec ce céphascope Altec. J'ai bien dû le voir remettre ça, je sais pas, tous les soirs quand il rentrait du boulot, dès qu'il avait franchi la porte. Chaque type a un truc auquel il tient. Lui, c'était ça. Alors moi, je me dis, c'était la pire saloperie à lui faire, mec. La pire!
C'est ce que je veux dire.
Quoi, c'est ce que tu veux dire?
Tous les soirs quand il rentrait du boulot. Ça fait quelque temps que je me demande quel est le véritable employeur de Bob Arctor. Quelle est au juste cette organisation dont il ne peut rien nous dire. c'est ce putain de Blue Chip Redemption Stem Center à Placentia. Il m'en a parlé un jour.
Je me demande ce qu'il y fabrique.
Charles Freck soupira. Il peint les timbres en bleu. Vraiment, Baris ne lui plaisait pas. Freck aurait voulu être ailleurs, peut-être en train de toucher de la dope grâce à la première personne rencontrée, ou à la suite du premier coup de fil qu'il aurait donné en sortant de la maison. « Je devrais peut-être me tirer », se dit-il. Puis il songea au bocal d'huile et de cocaïne dans le congélateur. $100 de marchandises pour 98 cents. «
Écoute, quand ton machin sera-t-il prêt ? J'ai l'impression que tu me racontes des cracks. Comment les types de Solar Cain pourraient-ils vendre à si bas prix ? S'il y a vraiment un gramme pur dans la préparation, comment pourraient-ils réaliser des bénéfices ?
Ils achètent en grosse quantité. »
Charles Freck se projeta une séquence fiction instantanée. Des camions à benne manœuvraient pour pénétrer à reculons dans l'usine Solar Cain, où qu'elle se trouve, à Cleveland peut-être. Et là, ils déversaient des tonnes et des tonnes de cocaïne pure de première qualité, non coupée, non traficotée. On mélangeait la coke avec de l'huile, un gaz inerte et d'autres saloperies, puis elle ressortait à l'autre bout dans des bombes aux couleurs gaies qui iraient s'empiler par milliers sur les étagères de tous les drugstores et supermarchés 7-Eleven. Ce qu'on devrait se payer, ruminait Charles Freck, c'est un de ces camions à benne. Récupérer toute la cargaison, 700 ou 800 livres peut-être. Merde, non, beaucoup plus. Combien ça contient, un camion à benne ? Baris attirait à présent son attention sur la bombe de Solar Cain vide, où figurait la liste des ingrédients.
Ici, tu vois ? Benzocaïne. Seuls les gens un peu doués savent que c'est un nom de code commercial pour la cocaïne. S'ils mettaient cocaïne sur la boîte, les gens flasheraient là-dessus et finiraient par faire comme moi. Mais les gens n'ont pas l'instruction nécessaire. Ils ne possèdent pas la formation scientifique que j'ai acquise.
Et que vas-tu faire de ta science, à part mettre un réchaud dans le slip de Donna Hawthorne ?
J'ai l'intention d'écrire un best-seller, un jour ou l'autre. Un guide à l'usage du citoyen. Comment fabriquer de la dope dans la paix de sa cuisine sans enfreindre la loi ? Car vois-tu, ceci n'a rien d'illégal. La benzocaïne est autorisée. J'ai téléphoné à une pharmacie pour demander. On s'en sert pour un tas de choses.
Ça alors ? Charles Freck n'en revenait pas. Il consulta sa montre pour savoir combien de temps il devait encore attendre.